Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. Correspondance 6. Un texte de Thibaut Dubreuil, sur une lecture de Tiphaine Bunel, du cours Charmet, et l'auteur. Composition et interprétation à la guitare, Jackie Arpineau. La correspondance qui nous occupe ici est celle entre un mari et sa femme. Internet m'a permis de remonter aux origines de la famille de Paul, des industriels ayant commencé dans les affaires au milieu du 19e siècle, et dont la prospérité s'est poursuivie tout au long du XXe siècle. On compte un ministre et un ambassadeur, des ingénieurs en pagaille et deux légions d'honneur, dans cette famille dont les ramifications sont nombreuses. À l'inverse, Françoise est issue de parents petits fonctionnaires. Nous ignorons où et comment ces deux-là se sont rencontrés, mais une union entre deux personnes de classe si différentes n'était guère fréquente. Hier comme aujourd'hui. Les lettres échangées sont le signe d'une crise profonde dans le couple. Toutefois, je n'ai pas livré à la lecture l'intégralité de leurs échanges. Même des années plus tard, je ne voulais pas tout trahir de leur intimité. Paris, le 25 mai 1932. Ma belle, mon amour, je t'espère bien installé et que tu profites de ce séjour dont tu as tellement besoin. Un peu d'éloignement ne peut être que bénéfique, pour toi comme pour moi, mais pas trop longtemps tout de même. Je me suis rendu à tes arguments et ne viendrai pas te visiter. Et je souhaite que nous ayons une discussion tous les deux dès ton retour. Comme tu le sais, mon frère est devenu un proche du professeur Janvier. Celui-ci lui a parlé des derniers progrès de la médecine et des nouveaux traitements contre l'infertilité. Philippe peut nous ménager une entrevue, même si Janvier est très pris par ses conférences. On l'a même sollicité à l'université de Columbia, en Amérique. C'est te dire l'autorité qu'il est devenu. Comment vont les rosiers? N'ont-ils pas trop souffert du froid de cet hiver et la maison? Tu as bien fait de prendre Joséphine avec toi. Elle est de bonne compagnie et cuisine admirablement les poissons. Elle te laissera tout loisir pour ces promenades sur la plage que tu affectionnes tant. Mais ne médite pas trop, ça gâte les idées et brouille la réflexion. J'attends de tes nouvelles. Paul, ton mari pour la vie.
Deauville, le 16 juin 1932. Mon cher Paul, l'air du large est mon ami. Voilà une chose toute simple et qu'on ne peut acheter. Respirer une autre atmosphère que celle des conventions parisiennes, toujours un peu confite et viciée, me fait le plus grand bien. Je vis dehors, je déjeune sur la terrasse, et l'autre nuit j'ai même dormi dans le hamac. À regarder les étoiles tourner dans le ciel, j'ai pu méditer comment notre couple a dérivé. Plus rien ne va. Tu le sais comme moi qui ai préféré partir quelque temps. Et je t'en prie, cesse de me rabâcher médecine, potions et traitements. Et Janvier, son hôpital, je suis passée à autre chose. Et me relancer une fois encore m'agace et m'épuise. Une croix dessus, c'est une de tes expressions, non? Je suis au bout de tout ceci et préfère parler de deuil sans défunt, à présent. Nous ne saurons jamais, de toi ou de moi, celui qui n'a pas pu. Et c'est bien mieux comme ça. Mais je ne t'ai pas fui au sens où une femme fuirait son mari violent ou volage. Tu n'es rien de tout ça, je le sais bien. Tu es doux et prévenant, affectueux, et tu ne veux que mon bonheur. T'épouser m'a propulsé dans un monde dont j'ignorais tout. La petite grue timide que j'étais n'est plus. J'ai pris ma place parmi les dames du grand monde et je représente ta réussite tout aussi bien qu'une autre. Je disparais, en somme, dans les froissements d'étoffes et les conversations feutrées dont les balisages que j'ai appris à connaître sont comme autant de rappels pour le marin imprudent qui se risquerait dans la tempête. À Deauville, il fait beau. La maison revit de ses fenêtres ouvertes sur la mer. Tout comme moi d'ailleurs qui suis plus apaisée et plus lucide. Et Joséphine est toujours d'une grande discrétion. Je mange léger et me désaltère de cette eau claire et fraîche qu'on ne trouve qu'ici. Ça me lave de tout ce que je ne peux plus entendre. Cette vision du monde que tu partages avec ceux qui te ressemblent, que tu étales comme des évidences, je ne la supporte plus. Elle me rend malade. Tu essayes de rassurer ta conscience, soulager la misère, encore une expression à toi. Mais c'est la mienne de conscience qui en prend un coup à chaque fois que je vois ces larmes monter à tes yeux quand tu tends de vieilles guenilles, quelques billets à des œuvres. Elles sont de crocodiles, ces larmes. Mais je ne veux plus pleurer. J'en ai assez de ce que je vois et de ce que je comprends. Ici, je joue aux quilles et aux cartes avec des dames rencontrées au hasard. Et je me promène sur les grèves, lentement, comme pour ralentir cette marche du monde qui te plaît tant. Ce train fou qui jamais ne trouvera sa gare. Il est parfois terrible d'user de sa conscience pour démonter ce monde dans lequel on vit. Alors je m'endors au soir en espérant me réveiller dans la peau de cette sotte de Marie-Joubert Archambault. Ne rien savoir, ne rien voir, évogue la galère. Françoise.
Paris, le 30 juin 1932. Mon ami, que d'animosité dans tes propos, et comme je dois te décevoir. Mais je veux que tu le saches, je n'ai jamais cherché en rien à te blesser, et je te le répète comme maintes fois je te l'ai dit. Le monde marche ainsi. Bien sûr, on pourrait s'en abstraire, et pourquoi pas vivre de l'air du temps pendant qu'on y est. Ou mieux, jouer les bons pères, les patrons bonasses. Aller à l'encontre du monde et de comment se font les affaires. Mais alors, il faudrait rapidement mettre la clé sous la porte, car s'il te prend de vouloir tendre l'autre joue comme on ouvre sa main, c'est rapidement tout le bras et le reste que l'on va perdre. Notre confort, notre vie, ce voyage que nous devons faire en Amérique, ne mérite-t-il pas quelques sacrifices? Crois-moi, crois à ton mari, tu ne changeras rien à tout ceci. Mets donc un mouchoir sur ce que tu vois, ces analyses toujours incomplètes, ces réflexions que tu fais sans cesse et dont ta position d'épouse oisive, ne vois pas malice dans cette expression, mais il faut bien appeler les choses par leur nom, cette place d'épouse t'empêche de saisir, d'englober en totalité les problèmes que j'ai à résoudre chaque matin quand je me lève et qui m'accompagnent au soir quand je me couche, me réveillant parfois au milieu de la nuit. Et oui aussi, je te trouve injuste. Je ne suis tout de même pas le monstre que tu décris lorsque je lis, que je relis, entre les lignes, cette lettre. Je sens d'ailleurs, puisque je te connais plus que toi-même, je sens, dans cet amoncellement de reproches qui pousse, une avalanche qui bientôt va me tomber dessus. Ton vague à l'âme, ce spleen qui toujours te saisit quand tu laisses traîner tes oreilles, peuvent se vaincre aisément. Accepte donc ce qui est et profite de cette vie que nous menons. Nous deux seulement, puisque tout va s'arrêter concernant cet enfant que jamais nous n'aurons. Par là, comprends que je respecte ta décision, même si déjà j'en souffre. Et je voulais te dire aussi que dans ce portrait que tu t'apprêtes à faire de moi, que toujours je t'ai été fidèle et que jamais l'attention et l'amour que je t'ai porté n'ont été feints. Tu le sais, il m'a fallu de la persuasion, et plus encore que celle que je peux déployer dans mes affaires, pour te faire admettre dans cette famille qui t'échappe tant. Ils ont tous fini par plier, par lassitude, comme tu le répètes si bien, et je t'approuve. Mais à présent, tu es là, et bien là. Paul.
Deauville, le 14 juillet 1932. Cher Paul, me voilà prenant la plume alors que déjà au dehors on pavoise. Jour de fête de la République, unanime à célébrer sa grandeur dans les flonflons et les drapeaux, les défilés clinquants et les discours empoulés. je ne participerai à rien. Rien d'autre qu'à te faire la fête, à présent que je lis et relis encore cette lettre que le postier m'a tendue hier matin. Au lieu d'industrie métallurgique, d'investissement dans les pétroles du Levant ou de placement dans les colonies, c'est bien dans le textile que tu aurais dû mettre ton argent. Car des mouchoirs, tu imposes tellement sur ces choses que tu me reproches tant de voir que c'est en fait de draps ou de voiles de bateau qu'il nous faudrait parler. Je sais l'amour sincère que tu me portes et comment tu es venu me chercher chez mes parents, aux Batignolles, leur imposant, presque contre leur gré, ce mariage avec un monsieur, alors que ma sœur venait d'épouser un instituteur. Je connais aussi ton amitié sincère et comment toujours tu te mets à leur portée, faisant le service à table, plaisantant par des anecdotes sur tes voyages, relançant ton beau-frère sur les leçons qu'il dispense aux enfants, et tu n'es jamais avare d'une bonne bouteille de vin. Tout ceci n'est pas fin. Je sais aussi le cocon doré dans lequel je vis, à l'abri de tous les soubresauts. Même quand il pleut, nous sommes au sec. Mais cette sécheresse assaille mon cœur et me rabougrit. Le visage que tu me tends chaque jour que je te vois ne peut plus dissimuler celui qui est caché derrière et qui transparaît de plus en plus comme un Janus. Et ne me dis pas que ce sont encore des idées que je me fais. Même si dans ce milieu qui a mis tant de temps à m'admettre un peu, on ne voit rien, ma lucidité m'a fait te fuir et je suis venue ici. Tu es raciste, Paul. Pas au sens de ces hordes braillardes qu'on voit passer parfois sous nos fenêtres, vomissant leur haine de l'étranger, de l'autre, de celui qui n'a pas la bonne couleur de peau ou une autre croyance, brandissant leurs bras comme des marteaux prêts à tomber, habillés de noir comme la mauvaise nouvelle qu'ils annoncent, ou alors bien mis de la tenue des camelots qui veulent en finir avec tout ce qui n'est pas eux. Non, tu n'as rien à voir avec ces gens, de près ou de loin. Mais ces théories économiques que tu tiens pour de nouveaux dieux et qui ont fait ta fortune et celle de ta famille avant toi, ces idées que tu développes sans cesse sur la production, le travail, le commerce sont inhérentes à ta conception des rapports humains, à ce que tu fais et comment tu envisages l'avenir, une récapitulation de l'année précédente qui s'en vient à chaque nouvel an. Et se revendiquer conservateur n'est pas un argument, encore moins une excuse. Tu es raciste parce que tu divises les hommes en deux paquets fort inégaux et dont l'organisation immuable t'arrange toujours. L'élite à laquelle tu appartiens et dans laquelle je me suis glissée sans en rien savoir, et puis les autres, ceux qui ne sont rien, de toute couleur et de toute croyance, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs que tu ne connaîtras jamais et dont tu te fiches éperdument. Du moment qu'ils remplissent servilement la mission que tu leur as assignée, servir tes intérêts. Et c'est ça, mon vague à l'âme. Ce spleen, comme tu le nommes si mal, et qui me dévore de l'intérieur. Comme un rat blotti dans mon estomac, auquel je donne un bout de fromage en plus, quand on s'en vient à caresser la tête des pouilleux. Et ta mère, qui s'en va prier après, pour que Dieu lui donne la force de poursuivre sa mission, de soulager la misère sur laquelle sa maison s'est construite. Alors que je suis assez riche pour vomir tout mon soûl dans des toilettes en faïence. Je sais bien que je ne suis pas une caution pour toi. Tu ne m'as jamais considérée comme telle. Et toujours, tu m'as défendue contre les ragots. Surtout ceux qui venaient de ta propre famille. Et aussi que tu m'aimes sincèrement. Tu es un homme bon dans un monde de brutes. Et qui ne voit pas la brute en lui, car c'est devenu pire qu'une habitude, un mode de vie. Comme la politesse qu'on enseigne aux petits. Tu as appris à dominer et à ignorer les conséquences de tes actes. Tu es né dans un milieu où on ne fait pas d'erreur, et quand un malheur surgit, un bras arraché à cet ouvrier, une explosion dans une mine en Afrique, ou un renvoi brutal pour cause de revendication à vivre correctement, juste correctement. Tu traduis ça en chiffres, en pertes, en redéploiement, en approvisionnement à reconsidérer. Alors tu sors tes tableaux, tu convoques ton comptable, tu téléphones. « Ma frontière, c'est là où sont mes usines » ris-tu souvent. « Et notre horizon se limite au confort de notre vie. » Je sais bien que ce que j'écris là va te blesser. Mais malgré toute l'estime que je te porte et encore un peu d'amour aussi, il me fallait te le dire, que tu saches ce qu'il en est de moi et comment je vois tout ça qui t'échappe tellement. Françoise.
Paris, le 8 août 1933. Je t'avais écrit que je te connaissais mieux que toi-même. Je me suis trompé. J'ignorais comment tu pouvais souffrir de ces choses qui, chez les autres, font à peine un sujet de discussion dans les fumoirs, un entrefilet pour les dames se promenant au parc. Je dois bien admettre que ce que tu écris là, je ne le saisis guère. Je ne vais pas t'entretenir de mes affaires, mais apprends tout de même que je suis attentif à ce qui se passe dans mes usines. Certes, je ne vais pas dresser de moi le portrait d'un saint, même moi j'y croirais pas. Mais je ne suis pas indifférent, loin de là, quand un de mes ouvriers se blesse ou perd la vie. Je n'oblige personne à venir travailler chez moi. Mes usines ne sont d'ailleurs guère différentes de celles de mes concurrents, et là-dessus, je te l'accorde, nous nous entendons bien pour fournir à chacun son dû. Des gens cherchent du travail, je leur en donne. Des lois encadrent cet échange, et je ne suis pas élu à la Chambre, ce n'est pas moi qui fais les règlements. Et concernant cet accident dans cette mine, auquel tu fais allusion dans ta lettre, apprends qu'elle ne m'appartient pas, je n'y suis qu'actionnaire et encore minoritaire. Comment ma responsabilité pourrait-elle être engagée alors que je n'y ai jamais mis les pieds, que je ne sais même pas dans quel coin précis elle se trouve? Il y a des agents de maîtrise, des ingénieurs sur place demandent leur décompte, car moi j'y suis pour rien. Et c'est une belle somme d'un argent honnêtement gagné que je suis en train de perdre depuis que la mine a cessé son exploitation. Je n'ai pas écrit le monde dans lequel je suis né et dans lequel toi et moi avons grandi. Celui-ci est imparfait, certes, mais la perfection n'existe pas. Et vois donc comment les Soviets s'en sortent. Veux-tu aussi que nous perdions tout? Tout ce que mes ancêtres et moi avons bâti de nos mains pour les remettre à ceux-là qui n'en sont que des sujets, se contentant de fournir une force de travail qui ne nécessite même pas de savoir lire. Quelle injustice! Peut-être qu'un jour tout ceci changera à l'appel de tes vœux, mais je n'y crois guère. Et n'ai aucune envie de revenir à un âge de pierre à tailler des sabots dans une bille de bois ou à pousser une charrue derrière un bœuf. Ma femme est révolutionnaire, tiens donc. Vois donc comment la noblesse y a tout perdu il y a à peine plus d'un siècle. Et comment les petites gens n'y ont, au final, rien gagné. À part, peut-être, le droit de vote et quelques lois sociales. Au fond, pousser la charrue était peut-être mieux pour eux. Je ne décide de rien, Françoise. Je me contente de suivre un mouvement qui nous dépasse tous. Pour notre bien-être. Mais le temps où Garnier et Mourlet, ces deux délégués syndicaux qui appellent à la révolte de manière incessante dans mon usine de Créteil, le temps où ces deux-là seront capables de créer autant de richesses que moi, n'est pas encore venu. Il faut te mettre cette idée dans le crâne. Certains sont faits pour diriger et d'autres pour obéir. C'est la nature. Et c'est comme ça. Et tout cela est bien éloigné des idées de racisme dont vraiment je découvre le terme sous ta plume. Je suis né du bon côté. Et ce sont beaucoup de responsabilités, des ennuis, et par le fait, des faveurs aussi, et ceux-là sont bien contents de toucher leur salaire à la fin de la semaine. Je vis et je fais vivre. C'est un métier comme un autre, alors je t'en prie, cesse de me juger. Et reviens-moi, pleine de cette fantaisie et de cet humour que je te connais. Et oublions cela, veux-tu? Paul, ton mari qui t'aime.
Deauville, le 16 août 1933. À la lecture de ta lettre, je suis partie me promener longuement. J'ai marché plusieurs heures, tant la véracité de tes propos, leur réalisme cru, m'ont sauté au visage. Tu me décris le monde dans lequel nous vivons avec toujours cette même simplicité qui permettrait à un idiot d'en comprendre les ressorts, et cette évidence que rien ne change jamais. Et à moi d'en saisir encore plus d'une situation que je n'imaginais pas telle. Je n'ai pas ta culture. Je n'ai pas assez lu pour te contredire. Et ne souhaite pas m'engager avec toi dans un débat qui rapidement va me dépasser. Je me destinais au secrétariat, dans un ministère, comme me l'avait dit mon père. Et ne veux ni prendre en note, ni répéter ce que d'autres ont écrit bien mieux sur tous ces sujets que jamais je ne pourrais le faire. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Je cautionne ce que je ne supporte plus. Nous créons bien assez de richesses dans ce pays que d'autres ne doivent se contenter d'une cabane sans chauffage et de chaussettes trouées, envoyant ou pas leurs enfants dans des écoles où jamais ils ne pourront vraiment accéder à cette émancipation qui leur permettrait d'y voir plus clair dans ce jeu de dupes où toujours ils ne seront que les perdants, ramassant les quelques miettes qu'on voudra bien leur céder. Non, je n'ai pas besoin de ces parures, de toutes ces robes et de cette voiture qui me conduit dans des lieux de délassement, ignorant les quartiers borgnes. Et ne viens pas me parler de charité. Cette excuse ! Heureusement que les pauvres existent. L'Église se trouverait bien démunie si elle n'avait plus de malheur à soulager. Au fond, quand je reviens visiter mes parents, qui toujours me guettent pour savoir si je vais étaler devant eux ta réussite avec cette morgue assumée pour les gens qui ne sont pas de l'élite, je revisite l'appartement où j'ai grandi. Ma chambre modeste et pourtant chauffée, ce quartier bien acceptable, cette table garnie simplement et la bouteille de vin de Loire que mon père affectionne autant que moi et que toujours il ouvre à mon intention pour se rappeler des jours d'avant. Le sourire de ma mère, devenue première d'atelier, et la satisfaction de mon père auquel on va confier de nouvelles missions. Et je me dis que, malgré leurs petits biens, leur vie de classe moyenne, comme je l'ai lu dans un journal, eux, ils n'ont pas tout pris. Ils en ont laissé aux autres et savent se contenter. Plus encore, ils pensent et agissent pour que d'autres puissent avoir mieux. Oh, pas de château en Anjou, ni de voiture automobile, ni de toilette de chez Molineux. Non, une vie digne, simplement. Comme cette jeune fille que ma mère a poussée tant et tant qu'elle est passée première main et dont l'excédent de salaire lui permet de payer un docteur pour soulager sa grand-mère qui se fait vieille. Alors je maudis ma vie. Cette maison de Deauville, où mes parents ne veulent pas se rendre, malgré mes nombreuses invitations, car ce n'est pas de leur monde, et mon père ne préfère rien tant que les guinguettes des bords de Marne et son jardin sur la colline. Je me sens de plus en plus pressée dans ce triangle aux pointes acérées. Eux, toi et ma vie avec toi. Et dont les bords coupants se nomment trahison, amour et incertitude. Des bords comme des marais plutôt, et dans lesquels je me noie. Je sais que je ne retrouverai ma sérénité que par un acte fort. Observer les étoiles à la nuit m'a permis de me connaître mieux. Il faut que j'aligne les planètes pour ne plus tanguer et tromper définitivement cette nausée qui m'accompagne toujours, comme un mal de mer dont jamais je ne peux me départir. Françoise.
Paris, le 28 août 1933. Ma femme, puisque je peux encore te nommer telle au moment où j'écris cette lettre, je ne te dirai pas que ta si longue absence commence à faire se questionner. Les gens qui disaient du mal de toi en pensent deux fois plus. Et voilà que Marie Joubert Archambault m'a entretenu l'autre jour. La sottise dont tu l'as affublée est moins cruelle que tu ne le crois. Elle a bien saisi les ressorts de ton absence et m'a même encouragé à aller à Deauville. Elle a épousé un homme par convention et elle t'estime au-delà de ce que tu pourrais envisager, même par beau temps. Je n'irai pas à Deauville. Les documents que tu as joints à ta dernière lettre m'ont fait affreusement mal. Ne crois-tu pas qu'on devrait se laisser un peu de temps avant d'en venir aux extrémités du divorce? Tout ça pourquoi, en fait? Parce que nous n'avons pas la même conception du capitalisme. C'est un peu court, non? Alors que pour le reste, nous nous accordons comme des fleurs dans un vase. Le fils que je n'aurai jamais serait une raison, mais tu ne l'évoques pas. Ça double le mal que tu me fais. Au fond, notre incapacité à avoir un enfant, ça, j'aurais pu le comprendre. Je te demande de sursoir. Laissons-nous ce temps. Qu'on appréciait tellement quand je prenais sur mes heures pour aller ramer sur le lac avec toi et que tu n'appréciais rien tant que de laisser ta main aller dans le courant. Alors tu riais de mes capacités de marin d'eau douce. Rappelle-toi de tout cela, de tout ce qu'on a fait ensemble et dont je n'ai nul besoin de te faire la liste. Gardons le beau pour reconstruire. Et je ne te parlerai plus de mes affaires. Et tu pourras alors t'engager dans des missions qui te feront passer cette nausée qui te tord l'estomac. Nous sommes un couple atypique. Alors pourquoi ne travaillerais-tu pas ? Infirmière, en voilà une mission ! Institutrice, notre beau-frère serait ravi. Et je suis persuadée que tu as d'autres idées encore. Reviens-moi vite comme je t'aime. Paul.
Les saisons foutent le camp avec l'histoire de notre amour. Pourquoi en faire tout un roman? Pourquoi faire battre les tambours? L'amour est mort au bruit du temps. Nous n'avons pas su perdre le temps. Nous n'avons pas su prendre le temps de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer. Le temps s'en va. La belle affaire à tout perdre, c'est mieux ainsi que de se pousser d'un bonheur, que de raccommoder sa vie. L'amour s'abat comme un éclair. Nous n'avons pas su perdre le temps, nous n'avons pas su prendre le temps de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer. Pourquoi nourrir sa destinée au menu butin trop connu du rapier sage des années et de l'amour bu et rebu, celui qu'on prend à la journée. Nous n'avons pas su perdre le temps, nous n'avons pas su prendre le temps de nous aimer, de nous aimer.